Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le président de la transition malgache reçu au Vatican alors que le pays se prépare à se rendre aux urnes le 24 juillet pour le premier tour de la présidentielle et le 25 septembre pour le deuxième tour et pour les législatives, compte rendu dès le début de cette émission. Un nouveau rendez-vous éthique manqué en France, les nouveaux tests de diagnostic prénatal inquiètent ceux qui redoutent une volonté d'éradication des trisomiques. Et à propos du mariage pour tous, toujours en France, l'évêque de Metz rappelle que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Monseigneur Pierre Raffin se félicite de la mobilisation de ces derniers mois qui aura permis à beaucoup de Français d'affiner leurs convictions. Vous entendrez un étudiant burkinabé dans ce magazine. Il vient d'inventer avec un autre étudiant africain un remède simple, pas cher et efficace pour lutter contre le paludisme qui continue à faire des ravages sur le continent africain. Et puis à Rome, l'ambassade de France près le Saint-Siège rend hommage à Jacques Maritain 40 ans après sa mort. Jacques Maritain qui écrivait à Cocteau « Il y a si peu d'amour dans le monde, il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux ». Le pape François a reçu ce vendredi matin Ange Radzoel, le président de la haute autorité transitoire de la République malgache, alors que des élections présidentielles et législatives sont prévues à brève échéance dans le pays. Pour favoriser une sortie de la crise politique que connaît la Grande Île depuis le coup de force de 2009, le Conseil des Églises chrétiennes a lancé le 18 avril une initiative de réconciliation qui a suscité quelques critiques. Or, c'est l'Église catholique qui assure actuellement la présidence tournante de ce Conseil. Antonino Gallofaro.
Visite à caractère religieux ou politique, les deux probablement. Ange Radzoel étant catholique pratiquant, il a voulu personnellement faire le voyage jusqu'à Rome pour rencontrer le nouveau pontife. « Je suis heureux, a-t-il assuré au pape, d'avoir pu vous confier tout ce que j'avais sur le cœur ». Le communiqué du Vatican, publié à l'issue de sa visite, reconnaît que les entretiens ont permis d'aborder certains aspects de la situation nationale. La note met par ailleurs l'accent sur la contribution importante de l'Église catholique au dialogue national. Or, la médiation intermalgache lancée par les Églises ne fait pas l'unanimité. Elle n'exclut pas un report des élections, contrairement aux Nations Unies et à l'Union africaine, qui exige le respect de la feuille de route et la restauration de l'ordre constitutionnel. Quant à Ange Radzoel, qui a décidé de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle, il estime lui aussi qu'il est temps de mettre fin à la transition et d'aller aux urnes. Ce déplacement présidentiel au Vatican visait-il à faire pression sur le Conseil des Églises chrétiennes et en particulier sur l'Église catholique? Si l'on en croit le communiqué publié ce vendredi à la mi-journée, les deux parties ont constaté la qualité de leurs relations. On apprend par ailleurs que le Saint-Siège soutient les efforts en vue de la stabilité du pays et de la démocratie, mais aussi d'un meilleur développement et d'une reprise des activités internationales.
L'initiative du Conseil des Églises réunit des politiques, des militaires et des acteurs de la société civile avec la participation de l'ancien président malgache Didier Ratsirak, chassé du pouvoir en 2009 par son rival Ange Radzoel. Les deux hommes devraient, selon les analystes, se livrer à un duel à distance par candidat interposé. Après son entretien avec le pape François, Ange Radzoel a rencontré au Vatican le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, accompagné de Monseigneur Dominique Mamberti, sous-secrétaire pour les rapports avec les États. En début de soirée, le pape François a reçu le chef du gouvernement italien sortant, Mario Monti, venu prendre congé. Le Saint-Père poursuit par ailleurs jour après jour ses entretiens avec les responsables de la curie romaine, alors que ses homélies matinales, prononcées dans un cadre inhabituel pour un pape et devant un auditoire de simples employés du Vatican, continuent de susciter un vif intérêt. Elles sont scrutées à la loupe par ceux qui s'efforcent de dessiner les grands axes de ce nouveau pontificat et de prévoir les futures décisions. Ce vendredi matin, il y avait des employés de la typographie vaticane à la messe du pape François en la chapelle Sainte-Marthe, ainsi que des gendarmes et des employés du bureau du travail du siège apostolique. Comme chaque jour, le Saint-Père a développé sa réflexion à partir des lectures de la messe. Jésus dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble pas », des paroles particulièrement belles, a commenté le pape François. Sur le chemin de la vie, le Seigneur prépare nos cœurs par les épreuves, les consolations, les vicissitudes et les bonnes choses. Le chemin de la foi n'est pas une aliénation, c'est un chemin de préparation pour l'au-delà. Et le Saint-Père a prié pour que le Seigneur nous donne une espérance espérance forte, ainsi que le courage et l'humilité de le laisser préparer notre demeure définitive. En France, le Comité consultatif national d'éthique a rendu jeudi un avis favorable à l'utilisation de tests génétiques permettant de dépister la trisomie 21 d'un fœtus sur simple prélèvement de sang maternel. Présenté comme un progrès du point de vue éthique, ce test permettrait de réduire fortement le recours à des examens jugés intrusifs et souvent générateurs de fausses couches. Cependant, les diverses organisations qui défendent la recherche sur la trisomie 21, à l'instar de la Fondation Jérôme Lejeune, sur les potentielles dérives eugénistes de cette méthode. On écoute Jean-Marie Lemenné, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Il est interrogé par Manuela Affigy.
Oui, je suis un peu étonné de l'avis numéro 120 qui a été rendu par le comité d'éthique parce que dans le mot comité d'éthique, il y a éthique. Et en fait, il a rendu un avis essentiellement technique. Il a déroulé en quelque sorte la notice d'emploi du nouveau test à partir du sang de la maman enceinte. Il a fait une sorte de mode d'emploi de cette nouvelle manière de dépister les enfants trisomiques. Donc c'est une sorte de copier-coller des notices qui existent chez les fabricants et les marchands de tests. Mais ce qu'on attend d'un comité d'éthique, c'est pas ça, c'est de donner un point de vue éthique et pas uniquement un point de vue technique. Il a considéré que parce que c'était faisable, c'était éthique. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un comité d'éthique. Donc je suis très déçu du niveau d'analyse du comité d'éthique. Il n'a pas eu du tout le recul nécessaire pour donner un avis pertinent. On n'est pas du tout plus informé sur ce qu'il convient de penser, les différents arguments pour et contre ce nouveau test. En gros, il est favorable au nouveau test. Mais le comité d'éthique a toujours été favorable à toutes les nouveautés. Donc il y a quand même un sérieux doute sur sa capacité à mettre de l'éthique dans ses propos. C'est une chambre d'enregistrement, une sorte de jardin d'acclimatation de la transgression. Et au fond, il a déroulé un tapis rouge aux fabricants de tests. C'est vrai que derrière, il y a un marché d'un milliard d'euros pour la France et de 10 milliards de dollars pour le monde. Alors on comprend pourquoi.
Le comité a parlé de progrès éthique, en ce sens que ce nouveau test ralentirait le recours systématique à l'amniosynthèse, qui provoquerait, qui serait à l'origine de nombreuses complications et notamment de nombreuses fausses couches.
Oui, mais on se rend compte que le système qu'on a mis en place depuis 15 ans, qui est basé d'une part sur l'analyse biologique des marqueurs sériques chez la maman, plus l'amniosynthèse en cas de test positif, aboutit, bon, d'abord déjà à une éradication de 96% des enfants trisomiques dépistés, c'est-à-dire qu'on a déjà éradiqué la quasi-totalité de la population des enfants trisomiques qui vont naître. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est un test qui est très anxiogène et qui est très culpabilisant, puisque finalement on met en face de la mère un choix impossible, ou bien la mère condamne son enfant à mort, ou bien elle le condamne à vivre avec un handicap. Alors évidemment, ce truc entraîne en plus des effets collatéraux terribles qui sont l'amniosynthèse, beaucoup trop nombreuse, avec des fausses couches liées à ce geste iatrogène. Enfin, il faut voir dans quel système on est rentré. Pour faire diminuer les amniosynthèses, il n'y a qu'à faire un dépistage qui n'est pas systématique. Pourquoi fait-on un dépistage systématique de la trisomie 21 qui se solde par ce choix inhumain? Alors évidemment, le système est inhumain, eh bien, il y a des conséquences collatérales tragiques. On voudrait conserver un système aussi inhumain, mais sans avoir les inconvénients. La meilleure méthode pour faire moins d'amniosynthèse, c'est de ne pas faire un dépistage systématique. Pourquoi fait-on un dépistage systématique auprès de toutes les femmes enceintes qui a pour effet d'inquiéter inutilement 90 femmes sur 100? Parce qu'en fait, dans 9 cas sur 10, la femme n'est pas concernée. Bon, pourquoi on fait ça, si ce n'est que les populations de femmes enceintes sont des populations nombreuses, des populations stables. En France, il y a 800 000 femmes enceintes chaque année, et que c'est un marché. Et donc c'est très facile, très très facile de faire peur à une femme enceinte en lui disant la pire des choses qui puisse vous arriver, c'est que vous ayez un enfant trisomique. Pas de chance, dans 9 cas sur 10, ça ne concerne pas la femme à qui s'adresse ce test. Pourquoi fait-on des tests dans cette perspective qui n'est pas une perspective thérapeutique, qui est une perspective d'élimination? Alors on dit c'est grave et incurable, mais ce n'est pas la seule pathologie grave et incurable. D'abord, incurable, ça veut dire quoi? Curable, ça veut dire aujourd'hui, mais demain et après-demain, ce ne sera pas incurable. Et puis grave, ça veut dire quoi grave? Le cancer, c'est grave, et on ne tue pas les gens parce qu'ils ont le cancer. Donc quelle est cette politique qui vise à éliminer une population entière? Je m'interroge. C'est une politique eugéniste. Et je trouve que quand le comité d'éthique cite dans son avis la position des États-Unis entre les deux guerres, qui était une position eugéniste, je trouve que c'est quand même le comble. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la même situation que les États-Unis avant la guerre. Et je rappelle que l'eugénisme a précédé le nazisme et que l'eugénisme a succédé au nazisme. Donc on ferait bien de s'en souvenir et de ne pas prendre des exemples chez les autres.
Alors le comité d'éthique a appelé à être ouvert à un changement culturel profond en ce qui concerne la génétique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces paroles ?
Le propos que vous rapportez qui consiste à dire qu'il faut être ouvert, c'est quand même bien le minimum qu'il puisse dire. Cela dit, c'est à la limite de l'hypocrisie et du pharisaïsme. Si vraiment il faut être ouvert aux personnes handicapées, en particulier qui souffrent de la trisomie, il ne faut pas commencer par les éradiquer. Or, on est absolument dans ce schéma.
C'était Jean-Marie Lemenay, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Et au lendemain du vote de la loi sur le mariage pour tous en France, l'évêque de Metz s'interroge à propos de la précipitation du gouvernement français au moment où la crise économique imposerait, selon lui, tant d'autres priorités plus urgentes. L'histoire de l'Église, note Mgr Pierre Raffin, nous rappelle que des chrétiens sont morts martyrs pour avoir refusé d'obéir aux lois de l'État qui offensaient leurs convictions religieuses. Elle nous apprend aussi que par leur témoignage silencieux et la rectitude de leur conduite, les chrétiens ont transformé la société civile. L'évêque de Metz avertit toutefois que la résistance à laquelle les circonstances présentes appellent les chrétiens n'est pas la violence des zélotes contemporains de Jésus, mais la force tranquille des béatitudes fondée sur la réflexion et le discernement, la méditation des Écritures et la prière. Cette résistance devra tôt ou tard s'incarner dans des engagements concrets et elle a une dimension politique, reconnaît Mgr Raffin, mais il n'appartient pas aux pasteurs de l'Église de l'organiser. Leur rôle est de soutenir et d'éclairer. Strasbourg prend la défense des minorités religieuses. La nouvelle est passée quasiment inaperçue. Le 24 avril, le Conseil de l'Europe a approuvé à une large majorité une résolution sur la protection des communautés religieuses face à la violence. Les promoteurs du texte affichent une satisfaction mitigée. Olivier Bonnel.
Il aura fallu modifier le titre pour ménager les diverses sensibilités, en particulier les plus laïques, et placer la question religieuse dans le contexte plus vaste et universel des droits de l'homme. Mais le fond de la résolution reste intact. Ses promoteurs avaient été alertés initialement sur la violence perpétrée contre les minorités chrétiennes en Asie et en Afrique. Depuis, face au développement de l'hostilité antireligieuse dans le vieux continent, les députés y ont intégré un rappel de certains principes fondamentaux à l'intention des pays européens. Les États sont ainsi invités à respecter la liberté d'expression, le droit à l'objection de conscience, ainsi que le droit des parents en matière d'éducation, en rapport avec les questions sensibles du point de vue éthique. Mariage, adoption homosexuelle, non-discrimination, devant un parterre de députés européens, d'ambassadeurs et de fonctionnaires du Conseil de l'Europe, un séminaire a été organisé dans la foulée pour alerter sur les nouvelles atteintes à la liberté de conscience en Europe. Les intervenants ont notamment dénoncé le climat croissant d'hostilité et d'intolérance à l'encontre du christianisme dans le vieux continent et des personnes attachées à la famille et à la morale naturelle, hostilité qui se traduit par une violence de plus en plus ouverte et tolérée, y compris par certains grands médias et partis politiques. Un diaporama de la situation a été présenté et la question de l'objection de conscience dans le cadre professionnel a été évoquée. Plusieurs députés ont convenu de se saisir du sujet et le comité des ministres du Conseil de l'Europe va également être saisi.
J'ajoute que l'index mondial de persécution 2013 met en évidence l'augmentation des discriminations et violences contre les chrétiens dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Il montre aussi que leur situation, en revanche, s'est améliorée en Chine. Des progrès ont été accomplis au sein de l'Église d'Irlande en matière de protection des enfants. C'est ce que révèlent 7 nouveaux rapports sur l'application des directives promulguées en 2009 par une commission spéciale mise en place par les évêques catholiques irlandais en vue de lutter contre les abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Dans leur rapport, 6 diocèses irlandais et les religieux de la Société des missions africaines expriment leur satisfaction. Les progrès accomplis sont encourageants grâce aussi à la collaboration de nombreux volontaires dont l'engagement a été qualifié d'héroïque. Le président de la commission épiscopale a estimé que l'Église d'Irlande était en train de jeter les bases de sa reconstruction. D'autres rapports sont attendus. Les scandales de pédophilie au sein de l'Église ont ébranlé la très catholique Irlande. Le sommet de la hiérarchie épiscopale a été épinglé pour son silence. Le gouvernement a porté un jugement particulièrement sévère sur les évêques, les accusant d'avoir été incapables de protéger les enfants. C'est donc une Église blessée qui cherche un nouveau souffle. L'évocation religions sont en hausse au Royaume-Uni, aussi bien masculines que féminines, diocésaines et religieuses. C'est ce que révèlent les statistiques du Bureau des vocations de l'Église d'Angleterre et du Pays de Galles, très actif dans ce domaine. Cette croissance compense le déclin enregistré dans les années 90 et au début du millénaire. La tendance s'est inversée il y a 3 ans. Bientôt se laver pourra peut-être sauver du paludisme. 2 étudiants africains ont mis au point un savon permettant de repousser le parasite à l'origine de la maladie, première cause mortelle en Afrique. Faso Soap, c'est son nom, a vu le jour à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. On le doit au Burundais Mokhtar Dembélé et au Burkinabé Gérard Niyondiko. Alors que les médicaments et les outils de prévention sont onéreux, leur invention, beaucoup plus abordable pour les populations, constitue un espoir dans la lutte contre la maladie. Récemment, les 2 étudiants ont été récompensés lors d'un concours organisé par une université de Californie qui départage des projets innovants. Ils sont les premiers Africains à avoir remporté un tel prix. Pour nous parler du Faso Soap, l'un de ses inventeurs, Gérard Niyondiko.
Nous avons voulu trouver une solution beaucoup plus accessible à la population parce que la majorité de la population africaine n'a pas vraiment accès à des moyens de prévention contre le paludisme parce que les solutions qui existent sur le marché généralement sont plus chères. Avoir les moustiquaires, avoir les sprays et les crèmes anti-moustiques. Donc nous avons voulu innover pour trouver une solution, un produit simple qui entre dans les habitudes journalières de la population qui est encore plus accessible. Donc c'est pourquoi nous avons passé à un savon. Parce que tout le monde utilise le savon, même les populations les plus pauvres, ils utilisent le savon.
Et vraiment, il a une efficacité supérieure à d'autres produits. Il permet vraiment de protéger les populations de la contamination au paludisme.
Durant ces périodes, nous sommes en train de travailler beaucoup plus sur le projet. Nous avons déjà fait certains essais sur un échantillon des étudiants de notre école, mais on compte faire d'autres tests dans des laboratoires reconnus, accrédités pour la validation scientifique, mais nous visons une efficacité de 6 heures pour que, normalement, nous savons que les moustiques transmettent la malaria le soir, pour que les gens, quand ils font la douche le soir, ils soient protégés durant les heures avant d'aller dormir dans un moustiquaire.
De quoi est composé ce savon?
Notre savon est fait à partir de ressources locales, naturelles, notamment le beurre de karité, apprécié à cause de ses propriétés adoucissantes sur la peau, mais associé avec certaines huiles essentielles des plantes, cet aspect répulsif contre les moustiques. Bon, je peux citer par exemple le citronnelle, qui fait partie de la composition de certains huiles essentielles que nous avons utilisées.
Comment vous pensez développer ce savon? Est-ce qu'il va être commercialisé dans les supermarchés, dans des boutiques? Est-ce qu'il va être distribué?
Nous comptons nous baser sur déjà un réseau existant de grossistes et détaillants qui existent déjà au Burkina Faso. Et surtout passer par la communication à travers les médias, à travers les autres organismes qui interviennent dans la lutte contre le paludisme pour que la population soit beaucoup plus informée sur notre savon. On va le distribuer sur tout le territoire du Burkina Faso à court terme et puis à long terme, voire dans la sous-région et les autres parties de l'Afrique.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. 40 ans après la disparition de Jacques Maritain, l'ambassade de France près le Saint-Siège et l'Institut français Centre Saint-Louis organisent un hommage le lundi 29 avril à Rome à ce grand philosophe inspiré de saint Thomas d'Aquin. Jacques Maritain a représenté la France au Vatican après la Deuxième Guerre mondiale de 1945 à 1948. Élevé dans le protestantisme libéral et converti au catholicisme, Jacques Maritain a préparé la pensée de Vatican II sur les rapports de l'Église, des chrétiens et du monde. Il a mené un combat lucide et courageux contre tous les totalitarismes qui naissent de l'inévitable dérive du pouvoir et contre l'antisémitisme. Pour lui, la vraie réponse au totalitarisme, c'est le comportement chrétien qui est avant tout un comportement d'amour. Lundi à Rome, l'ancien recteur de l'Angelicum, Mgr Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, évoquera l'actualité et la fécondité de la pensée de cette figure importante du XXe siècle. Les organisateurs ont par ailleurs invité 2 jeunes jeunes universitaires français à apporter leur contribution. Florian Michel, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, et Michel Fourcade, maître de conférence à l'université de Montpellier. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fin de semaine à tous.